Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés.
Veux-tu m'expliquer ce que tu as vu au ciel?
S'exclama-t-il.
Et plus profond
encore, lecture de la légende.
Qui venait à sa rencontre en même temps.
Page 148.
Tenir bon. Bientôt ce sera fini.
Fin du chapitre 12.
Un livre découvert.
Première émission de la saison 2014-2015. Mes amis, bonjour. C'est Clotilde Seille en votre compagnie. Nous aurons cette année plus de temps, nous aurons plus de découvertes, plus de titres à vous soumettre. Voici Un livre découvert et son nouveau format d'une heure.
La table des matières.
Alors à tout seigneur, tout honneur, on va commencer aujourd'hui avec André Vincent, chef des services adaptés du BANQ, dont le SQLA, qui vous permet de vous procurer tous ces livres en format DAISY, dont nous faisons la promotion à cette émission. Et puis je vais également accueillir en studio Michèle Corbeil, la directrice du Festival international de littérature qui va s'ouvrir dans 2 jours. Et j'accueille aussi en studio Jacques Tremblay, bénévole. Tous ces invités, bien sûr, partageront un coup de cœur littéraire, comme le veut la tradition de cette émission. Sinon, eh bien écoutez, il va y avoir des nouvelles rubriques durant cette heure-là, bien sûr. On va revisiter un classique, on va écouter un extrait d'une nouveauté lue ici même chez Vues et Voix, et puis on va associer des nouvelles de l'actualité littéraire à des œuvres disponibles au SQLA. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Alors, on commence.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Les livres audio, ils en mangent, et celui que je vais accueillir maintenant, il en mange aussi plus particulièrement, car c'est un dévoreur de bouquins. Bonjour, monsieur André Vincent.
Bonjour, Clotilde. Vous allez bien?
Oui, je vais très bien, et vous-même?
Oui, après un bel été.
Ah, après un bel été. Est-ce que vous en avez bien profité?
Bien sûr. Quelques vacances.
Bon.
Retour depuis un bon moment maintenant.
Et là, vous reprenez du service, à titre notamment de chef des services adaptés de BANQ. Et je vous l'ai dit en préparation de cette émission-là, avant que, comme traditionnellement, vous nous parliez d'un livre, comme nous avons l'habitude de le faire, je voudrais vous poser quelques questions, André, parce que de vos fonctions, mon Dieu que cela est mal dit, et je m'en excuse. Vous savez, il y a un petit peu de nervosité aujourd'hui. Comme c'est la première, là, c'est un nouveau format, tout ça. Alors, elle est un petit peu nerveuse, elle est un petit peu brouillonne, peut-être l'animatrice, mais on me pardonnera.
On comprend ça.
Vous comprenez, ben vous êtes gentil. André, je voudrais peut-être vous poser certaines questions que des non-voyants m'ont souvent posées par rapport au fonctionnement du SQLA. Est-ce que cela vous va?
Bien sûr.
Bon, par exemple, ils se le demandent toujours, mais finalement, combien de livres audio sortent, toutes productions confondues à peu près par année au SQLA?
Certaines années, je dirais au cours des dernières années, au niveau des livres audio numériques, on a dépassé le millier de titres.
Le millier de titres?
Oui.
Et vous avez à peu près trois productions, hein, parce qu'on n'est pas les seuls à vous fournir. D'ailleurs, on en parle ici même.
Oui, on a quelques fournisseurs, bien que Vues et Voix soit le principal fournisseur de BANQ, voilà. Mm-hmm.
Mais dites-moi, parce que cette question-là, vraiment, elle revient tout le temps, comment se fait le choix des livres?
Le choix des livres est fait à partir d'une politique de développement des collections. Il y en a pour toutes les collections en BANQ, donc il y en a une pour les collections adaptées. Et je dirais que cette politique, elle est quand même un peu plus pointue, parce que contrairement à ce qui se passe dans d'autres collections où on acquiert à peu près tout ce qui est produit en français chaque année, Évidemment, du côté du livre adapté, étant donné qu'il faut faire justement modifier les livres, les faire enregistrer ou mettre en braille selon le cas, ben on peut pas le faire pour tout ce qui paraît sur le marché de l'édition. Donc, la sélection se fait de façon un peu plus pointue, mais en gardant un juste équilibre entre la fiction, les biographies et les documentaires, tout en tenant compte aussi des suggestions des usagers.
Ah, c'est ça, parce qu'ils peuvent vous en faire, hein?
Tout à fait, tout à fait. Et nous, sans prendre l'engagement de faire tout ce qui nous est suggéré, on tient compte, dans la mesure du possible, de ces suggestions-là, en s'assurant que ça va rejoindre un public relativement large. Là. Il est certain que si quelqu'un souhaite qu'on acquiert un document qui est tellement spécialisé que lui seul va en faire l'écoute, malheureusement, on ne pourra pas nécessairement donner suite à ce genre de demande.
Et est-ce qu'on peut chiffrer à peu près combien il y a d'abonnés au SQLA?
Au moment où on se parle, il y en a environ 6 000 actifs. Okay. Donc, ceux qui ont emprunté des titres au cours des 6 derniers mois. Mais dans notre base de données, on a tout près de 11 000 abonnés actuellement, mais tous ne sont pas actifs.
Non, c'est ça. Et comment pourrait-on faire pour les rejoindre, ces 6 000 personnes? Parce que je suis convaincue que sur les 6 000, il y en a beaucoup qui ne savent même pas que notre émission existe, et pourtant, on les aiderait à faire leur choix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Bien sûr qu'une telle émission, il y a quelques personnes qui m'en parlaient encore récemment, qui l'ont découvert par hasard et ça les a beaucoup intéressés.
Oui.
Je dois dire que les usagers des services adaptés connaissent en général bien les collections, pas toujours l'émission à livre découvert, mais de notre côté, on essaie justement de transmettre et d'inciter les lecteurs là, à écouter cette émission où il y a de bonnes critiques des ouvrages disponibles au SQLA, justement.
Alors, parlons-en des critiques. Est-ce que les abonnés osent faire leurs commentaires lorsqu'ils écoutent un livre, d'ailleurs qu'il soit bon ou mauvais? Est-ce qu'il y a des fois où vous recevez des commentaires négatifs en disant « Je suis désolé, mais c'est mal lu, c'est inécoutable » ou le contraire? Est-ce que vous recevez des commentaires positifs, des félicitations? Parce que vous savez, ils en travaillent un coup ici, les bénévoles, pour enregistrer des bouquins.
Effectivement, nous recevons des commentaires généralement par téléphone quand les abonnés communiquent avec le personnel des services adaptés pour commander de nouveaux titres, pour nous faire part de leurs préférences. Et je dois vous dire que de façon très générale, ces commentaires sont positifs.
Parfait.
À l'occasion, il va y avoir quelques commentaires négatifs. Justifié dans la mesure où on peut l'évaluer. Il y a quelquefois des documents et je dois dire que c'est moins le cas dans les enregistrements récents, mais si on regarde des titres produits il y a plus longtemps, ben peut-être que la qualité de la narration où il y avait certains défauts qui nous ont été signalés, mais encore une fois, ça demeure une très, très petite minorité. Alors, de façon générale, les commentaires sont positifs.
Bon, ben écoutez, tant mieux. André, ce que j'espère, c'est que nous allons pouvoir collaborer souvent ensemble pour vraiment faire connaître encore plus cette émission-là à ceux qui peut-être ne la connaîtraient pas et qui pourraient découvrir et entendre tout ce que mes invités ont à partager. Vous savez que je reçois des gens de tous les milieux, des gens qui sont toujours contents de venir servir aussi la cause. Des aveugles qui adorent écouter ces livres que nous enregistrons. Alors, c'est ce que je souhaite.
Oui, et j'ajouterais peut-être en terminant ce volet-là qu'on pense souvent que les titres audio sont lus uniquement ou presque par des personnes qui ont des déficiences visuelles, mais on a de plus en plus d'autres personnes qui ont des déficiences perceptuelles. Notamment la dyslexie sévère, ce qu'on appelle des troubles d'apprentissage, et on a de plus en plus de ces personnes qui s'abonnent aux services adaptés et utilisent les collections du SQLA.
Ben écoutez, André, j'ai pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais à vous poser ces questions-là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je m'en voudrais, moi, par contre, si on n'abordait pas cette petite marchande de souvenirs de François Lelore dont vous aviez envie de nous parler aujourd'hui.
Oui, qui est un roman que j'ai lu il y a quelques semaines et qui m'a beaucoup plu. C'est un roman qui, notamment parce que ça se déroule dans un pays avec lequel on est moins familier, ça se déroule à Hanoï, vers la fin des années 90, et ça nous fait vivre la rencontre vraiment entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Et ça tente de répondre à la question, est-ce que c'est possible que des personnes venant de cultures différentes puissent justement établir une conversation ensemble? Okay. Alors, c'est l'histoire d'un jeune médecin, Julien, qui s'appelle et qui est attaché à l'ambassade de France à Hanoï, et qui va faire la connaissance sur le bord du lac de l'Épée. D'une jeune vietnamienne qui tente de faire vivre un peu sa famille dans une époque difficile en vendant des souvenirs et en le faisant, c'est un petit peu clandestin. C'est pas nécessairement permis par les autorités. Alors, la petite marchande de souvenirs, elle s'appelle Lumière d'automne et il va s'établir, ma foi, une belle communication entre ces deux êtres-là. Et ça se déroule sur fond aussi d'une situation un petit peu difficile et qui nous fait penser à ce qu'on entend parler, hélas, beaucoup de nos jours. Il y a une épidémie mystérieuse qui apparaît à un moment donné à Hanoï et qui a pris naissance dans les montagnes au sud du Vietnam. Et Julien va être appelé avec une collègue à aller voir ce qui s'est passé exactement là-bas. Et je ne veux pas rentrer dans détails pour garder le suspense, mais à travers tout ça, Julien et Lumière d'automne vont se retrouver et les lecteurs auront la chance d'écouter la suite en empruntant ce document au SQLA.
Que vous faites bien ça, André. André Vincent, le livre s'intitule, je vous le rappelle, La petite marchande de souvenirs. Et c'est signé François Lelore, L-E-L-O-R-D. André Vincent, je vais avoir l'occasion de vous avoir à nouveau à cette émission, c'est certain, parce que, comme je le disais, vous êtes un dévoreur de bouquins, vous aussi.
Avec grand plaisir.
Merci et belle fin de journée. Merci beaucoup, André.
Au revoir.
Au revoir. On va me passer un petit peu de musique. Tiens, j'ai envie qu'on écoute une chanson. C'est rare à cette émission-là, mais ça s'impose et vous comprendrez pourquoi avec ma prochaine invitée. On écoute Le Rendez-vous. C'est Pauline Julien.
Adorez-vous parmi vos souvenirs ce rendez-vous où je n'ai pu venir. Jamais, jamais, vous ne saurez jamais si ce n'était qu'un jeu, si je vous aimais. Les rendez-vous que l'on cesse d'attendre existent-ils dans quelque autre univers? Où vont aussi les mots qu'on n'a pas pris le temps d'entendre et l'amour inconnu que nul n'a découvert? Quand on court après la fortune, on risque de perdre l'amour. J'ai payé de mes clairs de lune de vouloir allonger mes jours, augmenter le chiffre d'affaires pour gagner quoi? Quelques billets qui ne pourront jamais refaire le hasard que je gaspillais. Garderez-vous parmi vos souvenirs ce rendez-vous où je n'ai pu venir. Jamais, jamais, vous ne saurez jamais si ce n'était qu'un jeu ou si je vous aimais. Les rendez-vous que l'on cesse d'attendre existent-ils dans quelque autre univers? Où vont aussi les mots qu'on n'a pas pris le temps d'entendre et l'amour inconnu que nul n'a découvert? Nos peurs faisaient sauter la banque, c'était une question de temps. Mais un rendez-vous que l'on manque est mille fois plus important. Même quand c'est un inconnu qui fait les 100 pas quelque part. Car je sais, vous êtes venu et je suis arrivé trop tard. Reviendrez-vous par un soir de printemps au rendez-vous quelque part dans le temps? Ce rendez-vous que nous avons perdu, si vous voulez encore peut nous être rendu par ma chanson, ce soir je vous le donne. Et désormais j'attendrai votre pas tout le long de mes jours, puisque je sais mieux que personne que vous n'existez pas. Que vous n'existez pas.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et avant de vous présenter mon invité spécial, de vous la représenter, ces quelques mots. Je ne suis pas une écrivaine, mais j'ai pour eux une immense gratitude, car c'est dans leurs livres que je trouve, comme l'a écrit Alberto Manguel, ma propre histoire. Je crois aussi, tout comme l'écrivaine russe Ludmila Ulitskaya, que la littérature est la seule chose qui aide l'homme à survivre et à se réconcilier avec son temps. Bonjour Michel Corbeil.
Bonjour, merci de m'accueillir cet après-midi.
Ça nous fait très plaisir, je vous accueille en tant que... C'est vous qui avez écrit ces mots-là.
Tout à fait.
Et vous les avez écrits en tant que directrice du FIL, le Festival International de Littérature qui s'ouvre dans quelques jours.
Dans quelques jours, le 12 septembre.
Et qui va se prolonger jusqu'au 21 septembre. Voudriez-vous... D'abord, il a quoi? Il a 20 ans, le FIL?
Il a 20 ans cette année. Il a été créé en 1994 par l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, oui. Donc par des écrivains. Ce qui le distingue de plein d'autres événements, puisque c'est des artistes, des écrivains qui, au départ, ont voulu ce festival. Parce que la danse en avait un à l'époque, le théâtre, le cinéma, et on s'est dit pourquoi pas la littérature. Le FIL vole de ses propres ailes depuis 10 ans, mais moi je suis toujours restée fidèle, disons, aux vœux de ces écrivains qui au départ l'ont fondé. Et comme je l'ai écrit dans mon mot, moi je veux dire, je suis tombée dans les livres, dans la littérature quand j'étais enfant, et je pense que j'en suis jamais sortie, c'est toute ma vie. Oui. J'ai fait tous les métiers du livre, et ce festival je le dirige seule depuis 10 ans, mais j'y suis associée depuis sa fondation en 1994.
Alors, vous faites partie sûrement de ces gens qui doivent être absolument désespérés quand on entend les propos qu'on entend depuis quelques semaines par rapport à la littérature à l'école, par rapport aux livres, par rapport...
De se faire dire qu'on n'en meurt pas, je pense que oui, on en meurt d'une certaine façon, parce que je crois qu'on a besoin de l'imaginaire, je crois qu'on a besoin de se faire raconter des histoires.
Oui.
Enfant, mais plus âgé aussi. Toute sa vie, on a besoin de se faire raconter des histoires et puis de trouver dans les livres aussi à la fois une inspiration, à la fois quelquefois des solutions, s'identifier aux personnages. Tout ça, c'est comme très important et c'est très formateur aussi. Mmh. Ça nous permet de... Moi, je me rappelle très bien qu'enfant, je m'isolais pour lire.
Ouais.
Et ça me permettait d'avoir tout mon imaginaire, tout mon jardin secret. Et ce jardin secret, il est très important.
Et vous savez que chez nous, quand on dit se faire raconter des histoires, c'est d'autant plus vrai que la majorité des gens qui nous écoutent se font raconter les livres.
Tout à fait.
Puisqu'on leur lit à voix haute. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé à vous inviter, peut-être plus qu'un autre festival,
ouais.
Parce que c'est vraiment un festival où on nous raconte, où la lecture à voix haute est très importante.
Complètement. D'ailleurs, j'aimerais bien que vos auditeurs, ceux qui justement, on peut appeler non-voyants, difficulté à lire, ou peu importe, qu'ils soient présents dans les salles.
Mais oui.
Parce que vous vous retrouvez, cette année j'ai René Richard Cyr qui va lire Die Profundis d'Oscar Wilde. Mais on n'a pas besoin de le voir comme tel, René Richard.
Non.
On est dans la salle et on l'écoute. Mm-hmm. On peut écouter Charlotte Rampling nous dire les mots de Sylvia Plath.
Oh, ça
on n'est pas obligé
chose.
De la voir comme tel. Il y a plusieurs des spectacles qui sont en salle où on n'est pas obligé de voir la personne, on peut l'imaginer. La même façon que je dis souvent, quand on lit un livre, puis que après, on voit l'adaptation au cinéma, quelquefois on est déçu parce qu'on a imaginé les personnages différemment de ce qu'on voit à l'écran. Mais ça peut être aussi ça, ça peut être une façon différente, disons, de fréquenter ce festival.
Alors, pour revenir à René-Richard Cyr, il sera les 15 et 16 septembre dans la salle intime Claude Léveillé de la Place oui. des Arts. Parmi les autres événements que je voudrais aborder ici, il y a un concert littéraire qui réunit Richard Desjardins, oui. au Témoin d'un doute, oui. Alexandre Dacosta, oui. Violoniste, et puis Lorca, je connais moins.
Stéphane Etier.
OK. Alors, parlez-nous Alexandre de ça un petit peu. Alexandre Etier.
Alexandre Etier, pardon, je me suis trompée de son,
okay,
son prénom.
OK, c'est ça.
Donc,
excusez-moi, ce sont sur des textes
de Lorca.
De Lorca. Voilà.
Richard, dans ce spectacle, ne chante pas Lorca. Lorca okay. a été chanté, vous savez, Lorca a été chanté par plusieurs, et Paco Ibanez, okay. par...
Ibanez, je... qui a chanté voilà, Brassens aussi, qui a chanté tellement de gens.
Mais là, dans ce cas-ci, Richard va dire les textes de, okay. de Lorca. Et puis, ce projet-là, il vient d'Alexandre Dacosta, qui est un grand guitariste. Et puis, qui va l'accompagner avec des musiques...
Violoniste, non
violoniste, pardon. Violoniste. Et l'autre, Alexandre Etier, est un guitariste.
C'est ça.
Donc, avec des musiques espagnoles. Donc, c'est vraiment, on dit concert littéraire, parce qu'au festival... Ce qui est au centre, finalement, de tout ce que je fais, c'est de donner envie aux gens de lire, de
Bien
connaître
sûr.
Des œuvres littéraires. Et puis, souvent, il y a d'autres disciplines artistiques, comme la musique, comme le théâtre, comme la danse, comme les arts visuels, qui font en sorte qu'on provoque des rencontres,
Exactement.
Finalement, entre littérature et autres formes d'art.
Ce sera le 18 septembre au théâtre Outremont.
On a déjà annoncé une supplémentaire le 19 septembre.
C'est vrai.
Le lendemain, on l'a annoncé... Il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, parce que, je veux dire, les gens sont complètement emballés par cette idée, ce que je peux très bien comprendre.
Et puis, c'est le retour de Poésie, Sandwich, etc. Ça, c'est...
Tout à fait.
C'est un classique.
C'est un classique. On est rendu à la 9e année. Mm-hmm. C'est vraiment une façon extraordinaire de découvrir la poésie. C'est à la fois, on chante, on la danse, on la crie, on la hurle. Et puis, on finit par les sandwichs. Et ça s'appelle Poésie, Sandwich et autres soirs qui penchent, en
c'est
référence...
Ça.
À Guy Moffett, qui faisait le cabaret des Soirs qui penchent. Louis Moffett, l'instigateur de ce spectacle, et le fils de Guy Moffett.
Et alors ça, c'est du 12 au 14
Exactement.
Septembre, à la 5e salle de la Place des Arts. Il y a aussi, évidemment, on ne pourra pas parler de tous les événements, parce que je vous ai aussi fait venir pour nous parler d'un livre que vous aimez. C'est la mission de cette émission, et
Tout
c'est important
fait.
De le faire. Juste un petit mot quand même, l'atelier de Gilles Vigneault.
L'atelier de Gilles Vigneault. Gilles, quand il y a quelque temps, il a décidé qu'il ne ferait plus de spectacle. Donc, moi, il m'a téléphoné, il m'a dit « Je voudrais bien faire une rencontre où les gens pourraient me poser des questions. » Ils vont me poser des questions et puis on va, comme, on va discuter ensemble. Je peux leur raconter plein d'anecdotes sur ma vie, sur ma carrière et tout. Alors, le temps a un peu passé, il a fait son disque, il a adoré ça. Et puis, il m'a rappelé, il m'a dit « Tu sais, ça serait peut-être pas mal que mon musicien soit sur scène aussi. » Alors, j'ai dit, oui, le musicien peut être sur scène. Alors, il m'a dit, parce que quelquefois, tu sais, pour répondre à une question, peut-être que l'envie pourrait me prendre de chanter une petite chanson, de dire un poème.
Avec Jean-François Groux, hein,
Exactement.
C'est ça.
Alors, on continue à dire que c'est une rencontre forum, mais je peux vous dire quand même que le pianiste est là et que Gilles est prêt à chanter une petite chanson ou à faire un petit poème.
Le 21 septembre, au Théâtre Outremont.
Oui.
Nous parlons de chansons. Je vais refermer le petit tiroir du fil du Festival international de littérature qui, je le rappelle, va se dérouler. C'est le 20e du nom du 12 au 21 septembre. Et je vous ai demandé aussi, parce que c'est la règle du jeu quand on vient ici, de nous parler d'un livre. Et là, on vient d'aborder la chanson avec Gilles Vigneault. On reste là-dedans.
Tout à fait.
On va peut-être comprendre pourquoi j'ai diffusé... Pauline Julien.
Tout à fait. C'est La Renarde et le Mal Peigné. C'est la correspondance de Pauline Julien et de Gérald Godin. J'ai choisi ce livre parce que bon, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup les correspondances. Et puis, pour d'autres raisons aussi, c'est que Gérald Godin est décédé en 94, l'année de la fondation du festival.
Ah, oui.
Pauline est décédée en 98. Et ce recueil, La Renarde et le Mal Peigné, je l'ai fait en spectacle aussi avec Marie Tifot. Et Pierre Curzi. J'avais choisi justement à la fois une actrice, un homme politique qui était aussi artiste, un peu en correspondance avec Pauline et Gérald. La raison pour laquelle j'aime aussi beaucoup ce livre, c'est que, bon, je les ai connus tous les deux, donc ça me touche énormément de lire cette correspondance. Mais aussi, c'est qu'il y avait dans ce couple une telle passion, un tel respect du travail de l'autre. Et en même temps, il n'y avait aucune concession. Ils disaient des choses crûment, mais en même temps, ils s'encourageaient très fortement. Et puis on disait tantôt que dans les livres, on trouve à la fois, on trouve son histoire, on retrouve... Moi, j'aime bien ce type de relation-là. C'est que moi, je sens que quand je commence à m'apitoyer sur mon sort en me disant « je travaille trop », je sens la pire chose qu'on peut me faire, c'est finalement me dire « pauvre petite ». Mais si on me dit « bah allez, secoue-toi », ou encore « mais t'es bonne à rien finalement, c'est sûr que ça va être très très mauvais », je suis furieuse. Alors du coup, je réagis et je donne le meilleur de moi-même. Et la relation de Pauline et Gérald était vraiment dans cet esprit-là.
Michèle Corbeil, vous êtes donc directrice du fil, je vous le rappelle, quand je vous dis que je suis un peu nerveuse, je suis en train de le montrer une nouvelle fois. Je vous ai demandé de nous choisir un petit extrait avant, juste avant, je voudrais qu'on parte cette mélodie-là qui va aussi vous rappeler quelque chose.
Alors juste pour vous situer, Pauline est à Paris, Pauline a le trac, Pauline a de la difficulté à faire ses spectacles et elle écrit à Gérald et Gérald lui répond « Tu es la femme de ma vie ». Or malgré tout ça, malgré que ce soit ta crise de carrière, ton crise de métier, ton crise de tempérament, ta crise de volonté et enfin toi qui sois directement responsable de tout ça, c'est toi qui m'écris que tu me détestes. Voilà ce que j'avais à te dire. Tu as besoin de tendresse, je t'en donnais. Tu as plus besoin de chanter, voilà tout. Tu as plus besoin de mener à bien ta carrière. Et comme disait Barbara, mon métier de chanteuse, je l'ai réussi. Mon métier de femme, je ne l'ai pas réussi. C'est difficile d'être une femme. Puis il ajoute, c'est difficile d'être en amour avec une femme qui ne veut pas être une petite conne de ménagère. Voilà ce que j'avais à te dire. Ronge ton frein, ma Calice. C'est toi qui l'as voulu, ce métier, ce pari. Et moi aussi, je ronge le mien. Je ne souffre pas moins que toi, hostie. Je t'aime trop et ça me tue quand tu n'es pas là, ton Gérald.
Je vous remercie infiniment, Michèle Corbeil, surtout d'avoir lu ce passage, parce que si j'avais été là, j'aurais choisi le même passage. Sauf qu'avec mon accent français, vous avez remarqué que je suis de la minorité audible, mettons que ce serait moins bien passé, quoi. Alors, je suis absolument ravie et je vous remercie d'être venue à cette émission. Vraiment, Michèle Corbeil, et ne ratez pas, mes amis, vous qui aimez vous faire raconter des histoires, le film, le fil. Chaque fois, je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Le fil, c'est pour vous. Le Festival international de littérature, et c'est à Montréal.